Les infos à Washington.
Raissa Girondin avec vous pour votre bulletin d'information. En République démocratique du Congo, environ 500 personnes ont participé à Kinshasa à une messe célébrée à la mémoire des martyrs des élections. Deux ans après la répression d'une manifestation d'opposants en 2016, nos frères et sœurs morts ne sont pas les victimes de la dictature, mais les martyrs des élections. Ils ont donné leur vie pour dire à tous ceux, que les élections sont désormais le seul mode d'accès au pouvoir dans ce pays, a déclaré le père Prosper Njoli dans la cathédrale de Notre-Dame du Congo. Les 19 et 20 septembre 2016, 49 civils et 4 policiers avaient été tués selon l'ONU en marge de la répression des manifestations hostiles au pouvoir de Kinshasa à l'appel de l'opposition. Et toujours en RDC, la commission électorale a publié officiellement hier la liste des 21 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Cette liste consacre définitivement l'exclusion de l'ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba et de l'opposant en exil Moïse Katumbi. Des élections législatives et provinciales sont également prévues le même jour. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le chemin est définitivement balisé en direction des élections, a dit Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, après avoir rendu public, conformément au calendrier électoral, les listes définitives des candidats présidents de la République et députés nationaux. Cette étape est un nouveau pas de géant qui atteste de la volonté de tenir les élections dans le délai prévu par le calendrier électoral a-t-il poursuivi, se félicitant au passage du travail abattu par la centrale électorale. 21 candidats présidents de la République seront donc sur la ligne de départ de la présidence du 23 décembre prochain, soit 10 de plus qu'en 2011. Parmi eux, les opposants Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe ou encore Freddy Matungulu, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, des indépendants comme Noël Tchani, Alain Daniel Tshiekomba ou Seth Kikuni, l'ancien premier ministre Sami Badibanga porté par les progressistes et l'ancien ministre cadre de la majorité présidentielle Tryphon Kinkiemoulumba. Une seule dame parmi les 23, Marie-Josée Ifoku. À la députation nationale, par contre, ils seront 15 355 à concourir pour 500 sièges. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Burkina Faso, en proie à des attaques djihadistes récurrentes dans l'est de son territoire, a interdit la circulation nocturne des engins à deux et trois roues dans cette zone. C'est ce qu'a annoncé le colonel Ousmane Traoré, gouverneur de la région. Il a ajouté dans un communiqué que les véhicules automobiles de transport de personnes ou de marchandises seront soumis à des contrôles stricts et rigoureux. Le gouverneur a également maintenu en vigueur la mesure de fermeture temporaire des sites d'orpaillage, activité où sont généralement utilisés des explosifs artisanaux. Au Nigeria, 9 personnes ont été tuées, 9 autres blessées dans l'attaque par des membres présumés du groupe Boko Haram de 2 villages du nord-est du pays, non loin de la capitale de l'état du Borno, Maiduguri. Ils ont attaqué des villages quand il pleuvait et que les gens étaient à l'intérieur. Les villageois effrayés se sont précipités dehors où ils ont été abattus aveuglément, a déclaré un responsable milicien, Babakoura Kolo. Au Niger, le ministère de la Santé a ordonné hier la fermeture de plusieurs centrales pharmaceutiques privées de Niamey, notamment pour des médicaments douteux ou périmés. Nani Talani.
Cette mesure de fermeture immédiate vise 6 centrales pharmaceutiques des sociétés grossistes, notamment pour absence de contrôle de qualité des médicaments avant leur mise en vente, absence de destruction de produits périmés ou pour réapprovisionnement douteux. Les autorités leur reprochent aussi d'approvisionner des dépôts pharmaceutiques illégaux ou de ravitailler des vendeurs ambulants. 6 autres centrales ont écopé de mise en demeure et sont sommées de se conformer à la réglementation dans les meilleurs délais sous peine de fermeture. Ces sanctions sont prises à l'issue d'inspections menées par le ministère de la Santé. En novembre, la police nigérienne avait saisi plus de 13 tonnes de faux médicaments destinés au marché local. Ils avaient été commandés avec la complicité d'un agent corrompu d'une société officiellement agréée dans la distribution de produits pharmaceutiques. Le marché des faux médicaments est florissant au Niger, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique.
Au Libéria, le président George Weah a promulgué mercredi une loi sur la propriété des terres attendue depuis des années et qui pourrait servir d'exemple ailleurs. Selon cette nouvelle loi, les communautés locales pourront dorénavant faire valoir leurs droits en avançant pour preuve des témoignages oraux, des cartes ou encore des contrats signés entre communautés voisines. Seuls 10% des terres d'une communauté pourront être déclarées appartenir au domaine public et donc être l'objet d'une concession à des sociétés privées. La Somalie se dit prête à envoyer des troupes de maintien de la paix au Soudan du Sud, pays en proie à une sanglante guerre civile. Cette annonce fait suite à une proposition d'un récent sommet de l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'IGAD. Des précisions de Michel Joseph.
S'exprimant à Mogadiscio, le ministre adjoint somalien de l'éducation, Abdirahman Jabir, a levé tout équivoque sur la volonté de son pays à voler au secours du Soudan du Sud.
D'aucuns se demandent comment un pays comme la Somalie, qui est en train de sortir d'un conflit et de l'adversité, peut fournir des troupes de maintien de la paix. Le Burundi était en guerre quand il nous a envoyé des soldats et nous a aidés à reconstruire notre pays. Qu'est-ce qui nous empêcherait de contribuer au rétablissement de la paix dans d'autres parties de l'Afrique en conflit ?
L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a proposé que des pays comme la Somalie, l'Ouganda, le Soudan et Djibouti puissent aider à assurer la sécurité au Soudan du Sud. Leurs soldats seraient intégrés au sein de la force de maintien de la paix déjà présente sur place. La mission onusienne au Soudan du Sud compte 17 000 soldats chargés de protéger les civils, de créer un couloir sécurisé pour l'acheminement de l'aide humanitaire et d'enquêter au sujet des violations des droits humains.
En Afrique du Sud, un ex-conseiller municipal a été arrêté pour outrage et violence publique après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message où il profère une insulte raciste à l'encontre du président Cyril Ramaphosa. Dans cette vidéo, Kessy Nahir traite le chef de l'État de kafir, le terme le plus insultant utilisé pour désigner les Noirs sous le régime raciste de l'apartheid. Je demande que le président kafir Cyril Ramaphosa soit inculpé pour fraude au détriment de la nation, a-t-il dit. Il doit comparaître jeudi devant un tribunal. Et en Ouganda, l'ex-chanteur et député Robert Kyagulanyi, alias Bobby Wine, a été emmené par des policiers dès son arrivée à l'aéroport international d'Entebbe. Il revenait d'un séjour aux États-Unis où il était parti se faire soigner suite à de mauvais traitements qu'il dit avoir subis de la part des services de sécurité ougandais lors de sa détention. Nous ne sommes pas certains de l'endroit où ils l'ont emmené, a indiqué son épouse.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un espère la tenue prochaine d'un deuxième sommet avec le président américain Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé le président sud-coréen Moon Jae-in à son retour d'une visite de 3 jours au nord. Hier, les États-Unis ont salué les engagements importants pris par la Corée du Nord lors du sommet intercoréen de Pyongyang. Washington s'est dit prête à reprendre les négociations immédiatement en vue d'une dénucléarisation rapide qui devra s'achever d'ici janvier 2020. Des précisions d'Irénée Amanombo.
Les États-Unis félicitent les présidents Moon Jae-in de la Corée du Sud et Kim Jong-un de la Corée du Nord pour l'issue positive de leur sommet à Pyongyang, saluant leur engagement en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a invité son homologue nord-coréen Ri Yong-ho à le rencontrer la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Il a applaudi la décision nord-coréenne d'achever le démantèlement déjà annoncé du site de Tongjang dédié aux tests de moteurs de missiles en présence d'inspecteurs américains et internationaux, ainsi que la proposition d'un démantèlement permanent de toutes les installations à Yongbyon en présence d'inspecteurs américains et de ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Kim Jong-un s'est dit prêt à fermer ce complexe nucléaire, mais à condition que Washington prenne des mesures correspondantes, une demande à laquelle Mike Pompeo n'a pas encore réagi.
Et Jack Ma, le fondateur du géant chinois du commerce électronique Alibaba, a renoncé à son ambitieuse promesse de créer 1 million d'emplois aux États-Unis pour cause de guerre commerciale. L'homme le plus riche de Chine avait pris cet engagement en janvier 2017 aux côtés de Donald Trump à New York. Cette promesse se fondait sur 2 conditions préalables, celle d'une coopération amicale entre la Chine et les États-Unis. et celle d'un commerce bilatéral et objectif, a déclaré Jack Ma à l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. La situation actuelle fait que ces conditions préalables sont compromises et que cet engagement est désormais impossible à tenir, a-t-il déclaré. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 55 minutes. Excellente suite de programme.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.